Bonjour et bienvenue dans ce podcast Journalisme de guerre, les coulisses. Je m'appelle Lucie Vendelaine et je vous emmène à la rencontre de 6 journalistes. Tous travaillent pour des rédactions belges et sont partis en Ukraine, à Kiev, Lviv ou Boutcha. Ils ont rendu la parole aux citoyens qui vivent la guerre, mais aujourd'hui, c'est eux qui se dévoilent et révèlent l'arrière du décor.
C'est quoi la réalité d'un journaliste de guerre?
Comment ne pas se laisser envahir par la guerre?
Les journalistes sont-ils influencés?
Et l'info, ils la choisissent comment?
24 février 2022, jour 1.
Bonsoir, c'est une journée historique. L'Ukraine est en guerre. La Russie a déclenché une opération militaire de grande ampleur. Nous vous proposons donc une édition spéciale du journal télévisé pour vous aider à mieux comprendre la situation sur place.
Alice Debatty travaille pour le service international de l'RTBF. Le 23 février 2022, la veille de l'invasion russe en Ukraine, elle est envoyée à Kiev avec une collègue, Catherine Tonero. Alice travaille pour la radio, sa collègue pour la télé. Ensemble, elles vont rester 3 jours à Kiev pour couvrir l'agitation des premiers jours de guerre dans la capitale ukrainienne.
Il est 23h. Le train avance prudemment sur les voies dans la nuit noire. Il est temps pour les passagers de faire leur lit. Dans le wagon numéro 7, un militaire sort des draps propres d'un sac en plastique fourni par le chemin de fer ukrainien. Il les étend sur sa couchette.
Je m'appelle Yuri. Je travaille pour les forces armées ukrainiennes. Je défends notre pays. Au début de l'invasion, le 24 février, je me suis directement engagé. J'étais fonctionnaire avant la guerre.
Alice Debatty et sa collègue se réveillent à 4h du matin le 24 février 2022, sous les sirènes qui retentissent à Kiev. Elles étaient à mille lieues d'imaginer ce scénario.
Donc on est vraiment arrivé pour le début de la guerre. On sentait ici à la rédaction qu'il y avait une possibilité d'attaque plus importante encore, puisque le conflit commençait vraiment à se réchauffer. Donc on est parti sans vraiment savoir à quoi on s'exposait une fois arrivé là-bas, puisque on sentait que les choses se réchauffaient, mais de là à dire que la Russie allait envahir l'Ukraine. Voilà, donc le 24 février, on s'est réveillé à Kiev sur la place Maïdan, qui est au centre de la capitale, et on a entendu les premières explosions.
Mais pas question d'attendre, le travail commence tout de suite. Sa mission est alors de tendre son micro aux passants agités, inquiets, pressés dans les rues. Un témoignage l'interpelle et la marque, aujourd'hui encore.
Quand on a appris, voilà, on a fait la matinale. Et pour le journal de 13h, je leur avais dit que j'allais un petit peu me promener dans les rues devant l'hôtel pour aller essayer d'avoir des réactions de citoyens. Donc angle assez facile. Et donc je sors et l'air de rien, c'était assez vide parce que tout le monde fuyait. Et je suis tombée sur un homme, je ne me souviens plus exactement de sa nationalité, j'ai envie de dire irlandais. Et il s'arrêtait, je lui demandais comment il allait, comment il vivait l'événement, est-ce qu'il allait fuir Kiev, et il m'a dit que ça faisait une dizaine d'années qu'il vivait en Ukraine, que les étrangers ne pouvaient pas faire le service militaire à l'époque, c'était que des Ukrainiens qui pouvaient rentrer dans l'armée, mais que là évidemment les choses allaient changer avec la guerre et que en fait ils comptaient rentrer dans l'armée. Et il y avait un endroit où tu pouvais aller t'enregistrer, en fait te pré-enregistrer tout près de la place Maïdan et un bureau de recrutement quoi. Et il m'a expliqué voilà, je vais aller m'inscrire pour partir au front. Et on n'avait pas beaucoup dormi. Et on s'est regardé et moi j'étais vraiment au bord des larmes parce que c'était très... Enfin, son témoignage m'a touchée parce que je l'ai trouvé sincère, intense et enfin, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais... Donc ça c'est une rencontre qui m'est restée. Et voilà, et je l'ai salué et puis il est parti. Donc effectivement qu'il y a que dans ce genre de moment historique où l'histoire traverse tout le monde et qu'on se rend compte en fait que l'histoire nous traverse, c'est que cet homme-là, sa vie va complètement changer à cause de l'invasion russe. C'est très impressionnant de voir l'histoire s'écrire devant soi, en fait. Mm-hmm.
Au contact des citoyens, ce sont des témoignages forts, libérés par la simplicité du micro. Pas d'image, pas de gêne, pas de filtre. Alice de Bâti vit les bombardements, les départs précipités et l'annonce des premières victimes à leur côté. Pourtant, il faut rester professionnel, neutre, impartial.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc évidemment, l'objectivité, c'est évidemment une règle journalistique primordiale. Mais parfois, c'est aussi intéressant de le prendre à travers le prisme de la première personne. Si je parle de moi et que j'explique mon ressenti, je pense qu'à ce moment-là, c'est juste. Bon, ça m'est pas arrivé en réalité de donner mon ressenti forcément quand j'ai couvert. Donc, on vit le moment en même temps que les autres. Donc, on a peur en même temps que les autres. On ne sait pas exactement quoi faire. Je pense que nous, avec Caroline, Tonnerreau, on a vraiment essayé de se centrer. Au moment même, on était extrêmement concentrés. On a essayé d'être le plus objectif possible et aussi de raconter ce qu'il y avait autour de nous, en fait. Je pense que c'est ça. On a raconté ce qu'on vivait autour de nous, ce que les autres vivaient autour de nous. Et à cette échelle-là, on a essayé d'être les plus exact possible. Et tu parles de la stupeur des autres, tu vois la stupeur sur le visage des autres, tu vas le raconter, tu vas voir les larmes chez les autres, tu vas le raconter. Et effectivement, parfois, tu as peur toi aussi, mais ça passe un peu en second plan, ou en tout cas dans le travail qu'on fait ici, qui est, moi, à travers la radio, je pense qu'il n'y a pas tellement de place pour évoquer.
Mettre ses émotions de côté n'est pas la seule difficulté rencontrée par Alice de Bâti. Dans les premiers instants de guerre, les contraintes, il faut les affronter. Elle parle d'équilibre.
Tu ne peux pas toujours recouper ta source, on ne peut pas toujours vérifier. Je pense notamment aux chiffres, au nombre de morts du côté ukrainien, par exemple, où les chiffres sont hyper compliqués à retrouver. Et donc, ils ne sont pas compliqués, ils sont rarement publiés par les autorités ukrainiennes, et quand ils sont publiés, ils sont difficilement vérifiables. Donc c'est de trouver cet équilibre-là. Si on ne parvient vraiment pas... Si on n'a pas le temps, parce que c'est aussi une question de temps, si on n'a pas le temps de vérifier totalement une information, on peut utiliser toujours le conditionnel ou évidemment sourcer certaines déclarations, tout en spécifiant bien qu'on n'a pas encore eu l'opportunité de les vérifier. C'est aussi je pense que si on peut être transparent par rapport à l'info qu'on a reçue et être capable d'y mettre le conditionnel et de montrer une forme de vigilance.
Pour la journaliste, c'est sa première expérience sur un terrain aussi hostile. Rien n'a été préparé ou anticipé, les moyens manquent et le stress est à son comble.
La première fois, comme on a tous été pris de court, on n'était pas outillés comme il aurait fallu, ou en tout cas, par exemple, notre traductrice, elle a fui Kiev le jour de l'invasion, donc on ne pouvait plus la solliciter. Mais évidemment, très rapidement, et puis même déjà à ce moment-là, on a pu compter sur la rédaction pour mettre en place des choses à distance et pouvoir être évacuée, donc... Voilà, on a pu très rapidement avoir un procédé qui nous a permis de travailler, je dirais, pas en sécurité, parce que, en tout cas pour limiter les risques. Et puis évidemment, maintenant, on a un procédé hyper clair.
En rentrant en Belgique, Alice de Bâti désire tout de suite y retourner. Les enjeux que représente cette information l'animent, peut-être plus que n'importe quel autre. La journaliste se forme alors pour assurer son travail et sa sécurité en Ukraine.
Moi, par exemple, j'ai aussi suivi une formation, ce qui s'appelle formation Est. Et pendant une semaine, c'est une formation qui est donnée en Allemagne. On est entraîné avec, ça peut être des personnes qui ont, avec des militaires, mais aussi des caméramans qui ont fait beaucoup de terrains de guerre, qui nous donnent tous les bons réflexes à avoir. Que ce soit d'un point de vue médical, mais aussi d'évaluation du risque, des dangers, mais aussi connaître les armes, connaître à quoi ressemble une mine antipersonnelle, savoir à quoi ça ressemble, parce qu'on voit parfois certaines photos, c'est tout petit et en plastique. On pourrait même croire à presque un jeu pour enfants. Donc c'est toute cette formation-là aussi qu'il est nécessaire d'avoir avant d'arriver sur ce type de terrain. Je pense que pour pouvoir bien couvrir... en terrain de guerre, il faut avoir une préparation importante, savoir où on met les pieds, à quoi ressemblent éventuellement les éventuels pièges qu'il faut éviter.
L'expérience de la guerre a changé Alice de Baty, tant d'un point de vue professionnel que personnel.
Effectivement, ça fait grandir parce que quand on se réveille et qu'on entend qu'il y a des morts suite à des explosions, que les explosions ont lieu il y a 10 km de l'hôtel où on se trouvait, voilà, ça reste effectivement des conditions impressionnantes. On apprend sur soi parce qu'on apprend à gérer le stress dans ce type de moment. On apprend à relativiser, à agir de manière automatique, voilà, développer des automatismes. Et donc tout ça, c'est vrai que c'est un apprentissage sur soi. On aurait pu croire qu'on n'y arriverait pas, ou on demande souvent « est-ce que tu as eu peur ?» Mais en fait, au moment même, comme on a réfléchi en amont à comment il fallait agir, à quelles étaient les mesures de sécurité, au moment même, on les applique. Et en fait, on se rend compte qu'on est capable de rester en contrôle de la situation, qu'on est toujours capable de faire son travail. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'être capable d'évoluer humainement pour voir que, en fait, on peut couvrir ce type d'événement comme d'autres, quoi.
Vous pouvez être humain et professionnel.
Voilà, c'est ça. Mais c'est de oui, voilà, c'est ça. Je pense que la première fois qu'on va sur ce genre de terrain, on ne sait jamais comment on va réagir. Mmh. On ne sait pas si on va être capable d'entendre les bruits de la guerre et de pas être complètement angoissé ou voilà. Et en fait, avec tout un travail en amont, c'est faisable.
Aujourd'hui, la journaliste est partie 3 fois en Ukraine. Et même si son but n'est pas de devenir reporter de guerre à plein temps, elle repoussera encore ses limites et ses peurs dès que l'occasion se représentera. Car rendre la parole à ceux qu'on oublie et qu'on ne voit pas, c'est pour ça qu'Alice de Baty fait ce métier. La guerre en Ukraine, c'est aussi des images fortes, qui parlent d'elles-mêmes. Des images qui peuvent devenir des armes. Thomas de Cuper, journaliste caméraman chez RTL, vous l'explique dans le prochain épisode de Journalisme de guerre, Les coulisses. Un projet réalisé dans le cadre d'un mémoire en journalisme à l'école de journalisme de Louvain-la-Neuve.